climate conference. This is now a Global North Greenwash Festival. A two-week-long celebration of business as usual and blah, blah, blah.
Toujours pas tendre, hein, Greta Thunberg, quand il s'agit du décalage entre les promesses et les actes. Fin de la COP26, on a vu tant de représentants des entreprises à Glasgow. Il paraît même que dans les hôtels, ils étaient plus nombreux que les délégations nationales et les militants écolos. Et les entreprises ont pris tant d'engagements. Énorme annonce, hein, par exemple. 450 banques, investisseurs, assureurs qui pèsent 130 000 milliards de dollars qui ont dit banco, neutralité carbone, en 2050. Parmi les grandes entreprises cotées du G20, une sur trois aurait désormais un objectif de neutralité carbone. C'était une sur cinq l'an dernier. Des promesses. Et pourtant, certains militants nous assurent que la réalité est bien différente. Les entreprises, avec leurs émissions carbone et malgré leurs promesses, nous emmèneraient plutôt vers un monde à 3 degrés. La réalité, ce serait donc du greenwashing. Comment savoir? 2050, c'est loin. Qui fait de vrais efforts dès maintenant? Qui se contente de planter des arbres pour finalement continuer son business as usual? La bonne volonté affichée ne suffit pas, les mentalités ont changé, oui, ok. Maintenant, il faut des règles, des normes, du contrôle. Pour évaluer et comparer, la planète a besoin de législateurs, d'auditeurs et de comptables pour savoir s'il y a bla 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 ou pas.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Mag Écho. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Notre invité ce samedi 13 novembre, c'est le patron de Vinted. 17 millions de Français qui utilisent désormais sa plateforme pour acheter et vendre des vêtements de seconde main. Alors d'un côté l'économie circulaire, mais de l'autre les livraisons incessantes. Est-ce que tout cela est bon aussi pour l'environnement? On posera cette question et puis beaucoup d'autres à Thomas Plantinga, le patron de Vinted, vers 9h40. Le boom de la fripe, mais les vêtements neufs, où sont-ils fabriqués? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, la France se remette à produire des jeans, des pulls, des bonnets, des t-shirts? Eh bien, ça commence comme une petite renaissance de l'habillement français, du Made in France. Vous entendrez le reportage d'Anaëlle Verzo. Et bien sûr, au programme, vos questions et les réponses de Madame Vioboulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Question de...
Pierre-Yves.
Demande-t-il, Pierre-Yves?
Eh bien, sur la grande sécu, ce projet qui prendra en charge tous nos frais de santé, comme les salariés, Pierre-Yves se demande s'il va continuer à cotiser pour sa complémentaire santé, encore un peu, beaucoup.
Quelque chose qui donc changerait tout notre système de protection sociale, cette idée de grande sécu, c'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau, ça fait 3 ans, mais je vous explique tout ça.
Bah écoutez, d'accord, bon, mais j'en saurai pas plus tout de suite, on vous retrouve juste avant 10h, Sandrine Foulon. Tout de suite, je salue les débatteurs. Christian Chavagneux, bonjour.
Bonjour Alexandra, on est prêt à répondre à vos questions tout de suite.
Ah bah ça c'est bien. Faut pas bousculer Sandrine, c'est à la fin. Les débatteurs, c'est tout de suite. Christian, vous êtes éditorialiste à Alternatives économiques. Bonjour à vous, Laurent Bigorre.
Bonjour Alexandra.
Laurent, vous êtes le directeur de l'Institut Montaigne. Alors ce matin, débat très important dans le contexte actuel. Nous parlons d'immigration. Certains nous affirment que ce serait un drame économique. D'autres nous disent que ce serait plutôt la solution. On a des nouvelles données intéressantes cette semaine. Alors écoutez, Christian, Laurent, on va prendre les chiffres et puis on va tout mettre sur la table.
Je pense qu'une immigration incontrôlée plus une intégration ratée, ça disloque une nation.
Mais qu'est-ce que vous mettez derrière immigré?
D'abord, il faut donner le signal que le monde entier n'est pas le bienvenu chez nous.
Il faut arrêter l'immigration illégale et légale.
Je dis qu'on n'allait pas passer la campagne à discuter de sécurité et d'immigration.
L'immigration, en réalité, sert à peser à la baisse sur les salaires.
Marine Le Pen, députée Rassemblement National, candidate à l'élection présidentielle.
Le travail clandestin, c'est un dumping sur les salaires qui s'effectue au quotidien. Vous avez des gens qui acceptent de travailler au noir et que vous avez des employeurs qui se servent de cette main-d'œuvre, l'intégralité de l'échelle des salaires des Français est pressurée à la baisse. Cette situation n'est pas admissible, d'accord ?
Anne Hidalgo, maire PS de Paris, candidate à l'élection présidentielle.
Vous croyez vraiment qu'on va arriver à s'en sortir sans qu'il y ait une immigration économique qui continue à venir dans notre pays ? Posez la question à toutes celles et ceux qui cherchent aujourd'hui, par exemple, du personnel dans la restauration. Regardez la situation dans nos hôpitaux. C'est la vieille marotte consiste à dire les étrangers viennent manger le pain des Français. Ils viennent aussi contribuer à la fabrication du pain des Français et c'est plutôt une très bonne chose.
Le Conseil d'analyse économique dresse un bilan sans concession sur notre politique d'immigration.
C'est un rapport du Conseil d'analyse économique qui interpelle en fait. La France doit accueillir plus d'immigrés qualifiés sur son sol. C'est essentiel si elle veut garder son rang économique mondial.
La France s'est complètement fermée à l'immigration économique.
Emmanuelle Auriol, co-autrice du rapport, professeure à la Toulouse School of Economics.
On en a fait un sujet, donc quand on parle du nombre d'immigrés en France, c'est comme si on comptait les nombres de morts sur la route, hein, c'est une mauvaise nouvelle toujours. Or, quand on fait ça, les gens qui ont le choix, les gens qui sont qualifiés, ils sont mobiles, beaucoup de pays se battent pour attirer les talents, eh bien ils préfèrent aller là où ils sont bienvenus que là où ils ne le sont pas. Et c'est un bienfait dont la France se prive purement et simplement.
Il y a une situation obsessionnelle de la part de certains candidats sur l'immigration.
Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
Qui me paraît ni une chance ni une malchance pour la France, c'est un fait. Nous sommes beaucoup à être issus d'immigration, c'est ni une fierté, me semble-t-il, ni un défaut.
Laurent Bigorne, je me tourne vers vous pour nous faire la photo comme d'habitude et peut-être d'abord la définition. Qu'est-ce que c'est un immigré ?
Les définitions. Alors on va s'arrêter à celle de l'INSEE qui nous concerne le plus. Un immigré, selon l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, est une personne née étrangère à l'étranger et résidente en France. C'est différent de la définition des Nations Unies, c'est différent de la définition de l'OCDE. Mais à la fin du jour, ce qui va compter, ce sont les motifs qui sous-tendent l'immigration. Ils étaient bien présentés dans Zapping. Il y a des obligations qui sont légales, internationales, que la France a volontairement souscrites, qui renvoient au droit familial, au droit humanitaire. C'est le cas de tous les pays de l'Union Européenne, c'est le cas de la plupart des pays de l'OCDE. Et puis, il y a des motifs d'ordre économique. C'est l'immigration de travail, c'est l'immigration qui va concerner, par exemple, les étudiants. 90 000 visas d'étudiants en France sur les 292 000 immigrés entrés en France légalement en 2019. Et puis, il y a un troisième motif qui concerne spécifiquement les pays de l'Union Européenne, c'est l'immigration qui renvoie à la libre circulation. Et d'ailleurs, on n'est pas très bon, on accueille assez peu, hormis des retraités britanniques, mais on accueille assez peu d'immigrés européens, c'est-à-dire qu'on n'est pas très attractif pour les autres pays de l'Union Européenne.
Christian Chavagneux, pour compléter la photo, est-ce qu'il faut regarder les flux ? Est-ce qu'il faut regarder peut-être ce qu'on pourrait, parce que les économistes appelleraient le stock ?
Il faut regarder les deux. Hein. Donc évidemment, les chiffres des flux et de stock dépendent de la définition. Laurent l'a dit, il y a deux définitions. Il y a la définition française, hein, toute personne née étrangère à l'étranger. Et si on fait ça, il y a à peu près 6,5 millions d'immigrants en France, c'est-à-dire en gros 10% de la population. Mais en fait, on prend généralement pas ce chiffre parce que l'ONU, comme l'a dit Laurent, prend une autre définition qui est toute personne qui vit dans un pays qui n'est pas son pays naissance. Donc vous avez deux expats français qui vont en Chine, ils ont un enfant, il n'est pas né en France, donc quand il va revenir, il va être considéré comme un immigré. Bon, voilà, c'est là le problème de la définition onusienne, mais au moins avec l'ONU, on a des comparaisons internationales parce que tout le monde a la même définition. Et là, avec la définition de l'ONU, on est plutôt à 13% d'immigrés en France, donc ça c'est le stock. Et en termes de stock, la France est le 16e pays de l'Union Européenne à accueillir des immigrés. La Belgique c'est 17, l'Allemagne c'est 18, la Suède c'est 19,5. Donc vous voyez, on est très 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 loin d'accueillir beaucoup d'immigrés. Ça, c'est pour le stock et pour le flux. Laurent l'a dit, à peu près 290 000 personnes par an en moyenne, fait 0,4% de la population. Quand dans l'ensemble des pays riches, c'est plutôt
0,9%. Là, donc, on compte les entrées et les sorties.
Et les sorties. Mmh. Avec le problème que l'INED nous a bien souligné cette semaine, c'est qu'on a quand même du mal à bien compter les sorties. Et l'INED nous dit cette chose absolument incroyable que j'avais pas du tout en tête, c'est que si on reçoit beaucoup d'immigrés, la France envoie beaucoup de ses ressortissants à l'étranger. Oui, l'INED nous dit qu'en 2020, 4% des Français et des Françaises vivent à l'étranger. C'est 3% en Afrique. C'est 2,5% en Asie, c'est 1,5% en Amérique du Nord. Donc voilà, c'est vraiment très très loin d'être un grand pays d'accueil. Par contre, on voit plein de gens à l'étranger.
C'est essentiel de se comparer parce que on peut prendre aussi les données européennes d'Eurostat. Oui. Sur la période 2011-2020, on voit qu'en gros, la proportion des personnes nées à l'étranger a augmenté de 1,4 points en France. Mais quand on va regarder le Royaume-Uni, c'est 2,6, comme la Finlande, les Pays-Bas. C'est entre 4 et 5 points en Autriche. en Norvège, en Suède, en Suisse, et c'est 7 points en Allemagne.
Donc vous nous décrivez quoi? Un pays qui se referme. C'est ça que vous êtes en train de nous
un
dire?
Un pays qui est,
en tout cas, pas très ouvert.
Qui est obsédé par le débat sécuritaire, qui est obsédé par le débat sur l'immigration, qui ne regarde absolument pas, c'était le sens des notes du Conseil d'analyse économique, qui ne regarde absolument pas l'enjeu économique. Et effectivement, on pourrait dire, quand on se compare, que si M. Zemmour croit vraiment à son discours, il ne faut pas se faire vacciner. Parce que la plupart des firmes qui ont produit des vaccins dans le monde, les vaccins qui fonctionnent, BioNTech, Moderna aux États-Unis, Pfizer, sont dirigées chacune dans leur pays par des immigrés. Il y a un rapport entre immigration et innovation qui est bien mis en lumière par les notes du CAE, et je crois qu'il faut qu'on entre dans le débat économique pour comprendre ce dont on parle.
On va y aller. Le seul chiffre que vous n'avez pas cité, évidemment, c'est le chiffre le plus difficile, c'est immigration légale, immigration illégale. Christian ?
Ouais, entre 400 000 et 900 000 personnes, ça dépend des sources, évidemment, il y a
non, mais c'est important parce qu'il y a justement cet argument économique, il y a un argument économique qui tient
à 400 000, 500 000 pour 6,5 millions ou 8,5 millions, vous voyez que c'est franchement pas
parfois 600 000 en moyenne.
Allez, ouais, c'est ça, ouais. En deux minutes, on va essayer de faire combien ça coûte. Ok. Donc la première affirmation qu'on entend et la question que je vous pose, Laurent Bigorne, c'est est-ce que l'immigration coûte cher à la France?
Alors, quand on regarde pour la France et les pays de l'OCDE, et là aussi, il y a des données très précises, l'impact de long terme sur les finances publiques, eh bien, en réalité, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on va avoir des pays où, par exemple, on va avoir une immigration plus jeune et qui vont être des pays où il y aura un impact plutôt un peu positif, mais assez faible. Puis on va avoir des pays d'immigration intermédiaire, c'est-à-dire des gens déjà un peu âgés, où il va y avoir peut-être plus de tirage sur certaines dépenses, comme les dépenses de retraite, et encore, parce que les immigrés ont une espérance de vie généralement moins importante que celle, entre guillemets, des natifs.
Ils peuvent repartir chez eux.
Ils peuvent repartir chez eux en plus. Et donc, on va avoir un impact sur les finances publiques très plat à long terme. Mais à court terme, regardons un point. Quand l'Allemagne a accueilli le choc migratoire de 2015-2016, la consommation privée a connu une hausse de 2%. Et la croissance allemande, cette année-là, en 2016-2017, a été portée à 2,2 points de PIB contre 1,5 l'année précédente. Donc, à court terme, un choc migratoire, qui évidemment pose des questions et des questions politiques, mais un choc migratoire peut même avoir l'effet d'un plan de relance. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est considérer l'immigration comme un investissement. L'intégration, c'est un investissement. Et là où on n'est pas bon, par exemple, en France, c'est qu'on fait pas l'effort éducatif qu'il faudrait faire. Le CDE le dit quand on regarde PISA. PISA, qui est l'enquête dont on dispose sur les performances des jeunes Français à 15 ans, puisqu'on est le pays, en réalité, où les jeunes issus de l'immigration ont le moins de chances de rattraper le retard qui est le leur.
Donc, vous dites investissement. Évidemment, l'idée, c'est que si les immigrés sont bien intégrés au marché du travail, Christian Chavagneux, ils vont cotiser.
Mais évidemment, les immigrés, c'est comme le reste de la population française. Qu'est-ce qui coûte cher? C'est quand vous êtes jeune, parce qu'il faut vous former, quand vous êtes vieux, parce qu'il faut payer les retraites, et éventuellement, il y a des problèmes de santé. Or, les immigrés, ils sont essentiellement en France dans la tranche d'âge 20-60 ans. C'est-à-dire, ce sont des actifs qui cotisent. Et donc, globalement, quand vous voyez ce que vous donnez aux enfants d'immigrés, comme aux enfants français, ce que vous donnez aux retraités ou plus vieux, comme vous le faites aux Français, eh bien, vous êtes plutôt équilibré. Et étude après étude, ça fait 10-15 ans que tout le monde dit en gros, l'impact, il est entre moins 0,5 points de PIB et
sur,
les finances publiques, okay. Et plus 0,5 points de PIB quand vous prenez tout. Donc vraiment, c'est neutre en fait.
Néanmoins, je lis que les immigrés sont plus souvent au chômage que les personnes d'origine française.
Il y a un point en France qui est très lourd. C'est comme on a une immigration essentiellement familiale. On a une immigration où les gens qui arrivent ressemblent à ceux qui sont là. Et avec un sujet, c'est que les gens que nous avons attirés dans un premier temps sont des gens qui sont faiblement qualifiés et le pays n'a pas fait l'effort qu'il aurait fallu faire pour les qualifier. On les a concentrés par ailleurs dans des aires urbaines assez spécifiques en créant des poches de pauvreté qui sont aujourd'hui très compliquées à résorber. Donc ce qui se passe très simplement, c'est qu'on est face à une population qui est moins qualifiée que la population moyenne, en moyenne deux fois moins pour les immigrés français. C'est pas le cas dans tous les pays. Et quand on nous dit par ailleurs, les immigrés aujourd'hui, ils pèsent sur le marché du travail, c'est pas vrai. C'est une source de flexibilité. C'est une source de flexibilité, pourquoi? Parce que il faut reconnaître, il y a une hypocrisie, ils occupent des emplois qui sont délaissés par les nationaux. Les activités saisonnières, les emplois pénibles, ceux qui sont à horaires décalés. Deuxièmement, ils permettent, parce qu'ils sont très engagés dans les services à la personne, ils permettent à des gens qui ne seraient pas allés sur le marché du travail, comme par exemple un certain nombre de femmes, d'entrer sur le marché du travail, tout simplement parce qu'ils créent des services à la personne et ils alimentent les services à la personne. Et puis ensuite, c'est eux qui prennent la crise. On l'a vu dans tous les pays de l'Union européenne. La crise pandémique, c'est eux qui la prennent en premier dans la figure. Ils sont une sorte de variable d'ajustement sur le marché du travail. Donc il y a une énorme hypocrisie quand on explique qu'en réalité, ils pèsent sur le marché du travail.
Et il y a aussi des études qui démontrent qu'ils ne pèsent pas, n'est-ce pas Christian, sur les salaires.
Oui, tout à fait. Ni sur l'emploi, ni sur les salaires. Ils ne prennent pas nos emplois. Laurent vient de dire pourquoi, parce qu'ils vont prendre des métiers que les Français ne veulent pas occuper. Ils ne pèsent pas non plus sur les salaires. Aucun secteur, ça c'est quelque chose qui m'a frappé aussi dans les notes du Conseil d'analyse économique de cette semaine, aucun secteur n'emploie que des nationaux.
Ouais.
Tous les secteurs ont besoin d'immigrés. Mais il y a quand même des secteurs qui en emploient beaucoup plus que d'autres. Et on l'a entendu dans le ZAP, l'hôtellerie-restauration, le BTP, tous les secteurs qui nous disent qu'ils ont des difficultés de recrutement aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils utilisent en fait beaucoup d'immigrés et qu'à cause des problèmes des difficultés de se déplacer, eh bien aujourd'hui ils connaissent des difficultés de recrutement. Peut-être qu'une partie de ces difficultés de recrutement s'explique par le fait que nous manquons d'immigrés aujourd'hui.
Bon, alors ça c'est la question que pose et surtout la réponse qu'apportent les économistes qui ont fait la note pour le Conseil d'analyse économique. Nous faut-il plus d'immigrés en réalité? Est-ce que l'immigration, l'échec de se refermer à l'immigration, c'est pas ça le véritable échec? Laurent Bigorgne, que disent-ils précisément dans cette note, les experts du CAE?
Ils pointent un fait qui est connu, hein, c'est que l'immigration en France, je le disais, elle est peu qualifiée, elle est peu diversifiée. Et comme on a un débat public sur l'immigration qui est un débat qui fustige, qui pointe et qui est essentiellement sécuritaire, qui est un débat aussi, il faut bien le dire, d'inculture économique, on ne regarde que les effets de court terme et on est incapable de poser la question qui est la question européenne, celle de son déclin démographique. Sur les dernières décennies, j'étais fasciné par ce chiffre, 70% de l'augmentation de la force de travail européenne est due à l'immigration. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez considérable. Et quand on se compare aux États-Unis, on voit l'impact sur la richesse américaine. Par exemple, on apprend dans cette note du CAE que 36% des entreprises américaines comptent au moins un immigré parmi leurs fondateurs. Et ce chiffre grimpe à 44% pour les entreprises de la high-tech dans la Silicon Valley.
Mais c'est pas vrai en France, dit le CAE aussi.
Et c'est pas vrai en France, tout simplement parce qu'on a aujourd'hui un vrai déficit d'attractivité. Et ce déficit se joue sur les plus qualifiés, comme il est en train de se jouer sur les étudiants. C'est-à-dire que la France, qui était la quatrième nation la plus attractive pour les étudiants, presque 300 000 avant la pandémie, est en train de se faire doubler, est en train de se faire rattraper par d'autres pays européens et par d'autres systèmes universitaires qu'on pensait moins attractifs, comme le système chinois ou le système russe. Et donc on a un sujet.
Bon, alors il y a quand même un sujet. Ouais, Christian.
Moi je suis un peu dubitatif sur cette présentation. La proposition du CAE de dire il faut qu'on choisisse nos immigrés et qu'on fasse venir
comme au Canada, en Australie.
Parce qu'il y a quand même, sur le plan sociétal, moi ça me gêne d'introduire cette distinction entre le mauvais migrant en gros, qui est le migrant nord-africain ou noir qui peut qualifier, et le migrant parce que il faut diversifier l'origine géographique, nous dit avec le sens de la litote des économistes la note du CAE. Ça veut dire qu'on veut des asiatiques bien formés, on veut des ingénieurs indiens en gros, c'est ce que dit. Cette distinction entre le bon migrant et le mauvais migrant, ça me gêne un peu. Et puis Jean-Christophe Dumont de l'OCDE, qui est un expert, nous dit en général, les immigrés diplômés du supérieur en France ont plus de problèmes à trouver un emploi que les diplômés nés dans le pays, mais spécifiquement en France, moi j'étais vraiment très 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 surpris par cette analyse. L'effectif des migrants diplômés du supérieur a augmenté de plus de 60% en France sur les 10 dernières années. Or, 1 sur 2 de ces diplômés, il est soit inactif, soit au chômage, soit déclassé. Le problème, c'est la politique d'accueil et d'intégration, qu'ils soient diplômés ou pas, qu'ils soient qualifiés.
Mais même des jeunes gens.
Et ça, on ne le réussit pas en France.
Mais jeunes gens qui ont ni le bon nom ni la bonne couleur de peau, qui sont français et qui disent on est diplômé. On est diplômé, on trouve déjà pas de boulot.
Il faut pas chercher à opposer les migrants. C'est-à-dire que ce qu'on dit en réalité, c'est que sur les 300 000 qui sont entrés en 2019, il y en a seulement 14 000 qui sont venus avec ce qu'on appelle le passeport talent, qui est le dispositif qu'a souhaité la France pour rehausser le nombre d'immigrés hautement qualifiés. Donc il y a un sujet, c'est de savoir effectivement mieux les attirer, savoir quoi leur proposer derrière. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que il y a un pan qu'on pourrait ouvrir, mais qui est celui de la lutte contre les discriminations à l'embauche, qui se vit sur l'emploi faiblement qualifié, mais sûrement aussi sur l'emploi plus qualifié. Et sur lesquels on est globalement, on sait très bien aujourd'hui, pas bon en France.
Pas bon en France. On s'arrête là. Un pays où ils sont bons, évidemment, c'est les États-Unis, vous l'avez dit tous les deux. Et c'est là que nous allons...
L'Allemagne, hein.
Pas l'Allemagne, en effet, qui a résolu son problème de démographie, peut-être avec ça. Bon, ce matin, nous partons aux États-Unis. Christian, Laurent, la première préoccupation des Américains, ça n'est pas du tout l'immigration, c'est la hausse des prix.
Today's economic report showing unemployment continued to fall, but consumer prices remain too high. Everything from a gallon of gas to a loaf of bread costs more, and it's worrisome, even though wages are going up.
Le président démocrate Joe Biden en visite à Baltimore cette semaine. De quoi parle-t-il? De l'inflation. Tout, dit-il, d'un gallon d'essence à une miche de pain coûte plus cher. Ça pèse, même si les salaires augmentent. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Inter aux États-Unis, où les prix flambent. En octobre, ils ont augmenté de plus de 6%. Et ça, Sébastien, les Américains ne l'avaient pas vu depuis 30 ans.
Oui, et c'est pour ça que les chaînes d'infos comme CNN donnent la parole de temps en temps aux consommateurs, comme ce couple de l'Iowa qui a du mal à remplir son caddie au supermarché. Les chiffres officiels confirment: faire le plein de sa voiture, chauffer sa maison, faire cuire son repas, tout coûte plus cher et les hausses de salaire ne compensent pas cette hausse des prix. Voilà les chiffres du Bureau des statistiques du travail. Ici, c'est l'équivalent de notre INSEE. 3,40 $ le gallon d'essence en moyenne dans le pays. C'est presque 50% de plus sur un an, plus 29% pour une douzaine d'œufs, toujours en un an. Près de 30% de hausse aussi pour la livre de bœuf, plus 9% pour le gallon de lait. Même chose pour les loyers, plus 0,4% entre septembre et octobre, et c'est une tendance à la hausse depuis des mois. Le prix de vente des maisons a pris 16% sur un an en moyenne également. En fait, le Bureau des statistiques du département du travail observe une hausse des prix généralisée. Ça concerne aussi les voitures, neuves comme d'occasion, les soins médicaux, les meubles ou encore les loisirs.
Et à la Maison-Blanche, on s'inquiète, hein, Sébastien. Avec des Américains mécontents, cette inflation que certains nomment la Bidenflation pourrait devenir un vrai problème politique.
On entend les consommateurs, surtout républicains, râler de ces hausses de prix parce que la Maison-Blanche essaie de faire passer au Congrès son paquet de dépenses sociales de 2 000 milliards de dollars. Mais deux sénateurs centristes sont encore plus hostiles à de nouvelles dépenses publiques dans ce contexte inflationniste. Alors Biden leur a en quelque sorte répondu cette semaine dans un communiqué. Il explique qu'il y a aussi de bonnes nouvelles sur le front de l'économie, que le chômage baisse un peu, 531 000 emplois créés en octobre, et que son plan infrastructure adopté il y a 10 jours va faire baisser les prix. Il écrit « L'inflation fait mal au portefeuille des Américains et inverser cette tendance est une priorité absolue pour moi ». Il dit aussi, comme la Fed, que l'inflation est temporaire ou transitoire, que les hausses de prix sont dues au retard dans les chaînes d'approvisionnement, on en a déjà parlé ensemble, et qu'elle ne redescendra pas tant que ces chaînes d'approvisionnement mondiales ne seront pas fluidifiées. Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, a dit la semaine dernière que cette échéance était difficile à prévoir. Les cas de Covid baissent aux États-Unis, la bourse va bien, l'augmentation des taux d'intérêt n'est pas d'actualité pour l'instant.
Sébastien Paour, l'envoyé spécial permanent de France Inter aux États-Unis. Merci à vous Sébastien et merci aux débatteurs dont n'arrête pas l'écho, Laurent Bigorgne et Christian Chavagneux. Mmh. 9h35 sur France Inter, retour en France où depuis mercredi, les candidats à la présidentielle se pressent, porte de Versailles à Paris au salon Made in France. La souveraineté, l'autonomie stratégique, voici l'envie de voir de nouveau des usines sortir de terre. Eh bien c'est possible. Tenez, si on prend ce matin la direction des Vosges, notre reporter Anaëlle Verzo s'est rendue à Rupt-sur-Moselle. Elle promène son micro dans l'usine de tissu de Thomas Hurier.
C'est impressionnant toutes ces machines qui ont l'air d'être anciennes. On voit des bobines, des chariots entiers, plein de bobines de fils. Là on voit, il y a un monsieur qui est en train de préparer les fils sur cette grosse machine. Là, vous produisez combien de tissus par an, par jour? Je ne sais pas, comment est-ce que vous comptez?
Pour faire simple, on peut considérer qu'on tisse à peu près 200 000 mètres de tissus par mois. Si on ne faisait que du jean, ça alimenterait 2% du marché du jean français. Ça vous donne un peu une idée. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup à la fois.
Là, vous êtes à 100 euros le jean. Hein.
Notre jean, il est à 100 euros. Alors bien sûr, on pourrait être à 10 euros comme certains jeans. On ne sait pas faire.
Si vous êtes à 10 euros le jean, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous payez beaucoup moins vos salariés?
Ça veut dire qu'on se paye pas ou qu'on profite des gens, comme ceux qui sont fabriqués au bout du monde. C'est pas le but. Non, ce qu'il faut apprendre, c'est la vraie valeur des choses. C'est anormal d'acheter un jean 10 euros. Ça veut dire qu'on respecte soit pas la planète, soit les gens, soit pas les deux. Effectivement, il y a des gens qui peuvent pas mettre 100 euros dans un jean. Et pour ces gens-là, il faut les aider. Et il y a plein de solutions pour que chacun puisse s'habiller. Mais quand on regarde le marché du jean, on voit qu'il y a énormément de gens qui mettent entre 80 et 120 ou 130 euros dans leur jean. Il suffit de voir le nombre de jeans Levi's dans la rue pour s'apercevoir qu'il y a plein de gens qui achètent des jeans à 80 ou 100 ou 120 euros.
Les jeans Levi's, ils sont fabriqués où?
Au Pakistan.
88 millions de jeans vendus en France chaque année, à peine 100 000 fabriqués chez nous. Là, en 20 ans, la filière textile est passée de 600 000 emplois à 60 000. Mais des vêtements made in France et à un prix abordable. Est-ce que c'est simplement possible? À quelles conditions? Voici le reportage d'Anaël Verzo que l'on retrouve dans les Vosges, où l'usine maintenant s'agrandit.
Ah, voilà. Ah oui, d'accord. Là, c'est une énorme pièce avec des murs blancs. Et ça sent encore la peinture. Hein.
Eh oui, alors ça fait un moment que cette usine n'avait pas senti, bonjour, pas senti la peinture. Mais là, c'est un troisième métier que l'on développe dans l'usine. C'est le métier de confection de jeans. Il y aura à peu près une quinzaine de machines à coudre pour fabriquer le jean de A à Z.
Vous êtes sur le chantier, là, c'est ça?
Oui, on est les chauffagistes.
Chauffagistes, ah, ok.
Il y a encore de la vapeur et de l'air comprimé à installer. La vapeur pour la machine à repasser, je crois.
C'est ça.
Puis de l'air comprimé pour les machines à coudre.
Exactement,
oui.
Ça et tout.
Voilà.
Et vraiment, petit à petit, on rénove. On aimerait aller plus vite, mais le temps de tout réfléchir, tout mettre en place, ça prend un peu du temps. Là, ça fait plaisir d'avoir une partie de l'usine qui sent la peinture. Je pense que ça fait un moment que ce n'était pas arrivé.
Oui, je pense, oui. Parce que c'est la réflexion de tous les ouvriers, là. C'est la pièce que tout le monde vient voir, là.
Merci. Et votre prénom, c'est comment?
Christophe.
Bon, bah, Christophe, bon courage.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Et je peux vous demander, vos bénéfices sont de combien?
Bien sûr. Sur chaque jean, à peu près, on gagne 5 euros de bénéfices. Ces 5 euros de bénéfices, il y a 0% de dividendes qui vont aux actionnaires. Ils sont 100% réinvestis. Et ils sont réinvestis sur quoi? Sur l'économie circulaire.
Et vos actionnaires, ils sont d'accord avec ça?
Bah, l'actionnaire, c'est mon frère et moi, et des fonds d'investissement éthique. Donc, on gagne 5 euros, on investit dans l'économie circulaire, on investit dans la recherche, et c'est grâce à ça que dans quelques mois, on va sortir un jean 100% recyclé, parce que ça fait des années que tous les profits que l'on fait, on les consacre à la recherche pour l'économie circulaire dans le textile français. La deuxième règle qu'on s'est fixée, c'est une juste répartition de la richesse. Donc, pas de dividendes, et un écart de salaire maximum de 1 à 5. C'est statutaire. En fait, nos salaires, ils vont du SMIC à la direction de 1083, on est payé 2600 euros par mois.
En net?
En net.
Hop là, on passe dans une autre pièce. D'accord.
Ah là, il y a du son là. Il y a 42 métiers à tisser qui sont en action, en mouvement, pour fabriquer du lin, des draps housses, des cotons démaquillants, lavables et du jean.
Première condition pour se réindustrialiser, trouver des compétences et de la main-d'œuvre. Thomas Hurier vient de recruter 20 couturières qui sont en ce moment même en formation. Karine Renaud-Tiberguin, qui a repris la manufacture de layettes et de tricots, a elle aussi recruté des remailleuses. Elle a également acheté des robots. Je la rencontre au salon du Made in France, porte de Versailles, à Paris.
Ah, K27. Eh ben voilà.
Bonjour.
C'est Karine.
Oui.
Vous êtes
oui.
En train d'installer votre stand, la manufacture de tricot au stand K27. Tout le monde s'installe.
Oui. Et là, sont des petits gilets qu'on a conçus et qui sont extrêmement rares en France, en Made in France, parce que pour le coup, ils sont entièrement remaillés. On a la manufacture de layettes, qui elle est située à Pau, qui fabrique environ 600 000 pièces par an pour le bébé. À peu près 100 000 pièces en Made in France, c'est-à-dire à la fois tricotées par nous et assemblées dans nos ateliers. Et le reste est tricoté toujours par nous et assemblé en Tunisie, et ça part principalement dans la grande distribution. Nos clients, c'est Leclerc, Aubert, Carrefour, Casino.
Ça, ça semble incroyable, parce qu'on se dit le Made in France, c'est super, mais c'est tellement trop cher, c'est uniquement sur Internet, ou alors c'est dans des magasins spécialisés, tout ça, et en fait, vous arrivez à vendre pour le grand public.
Alors nous, on est vraiment, vraiment reparti de ce qu'avait fait notre prédécesseur à la manufacture de layettes, à dire... Je ne vais pas pouvoir vendre du 100% Made in France à la grande distribution. Parce qu'une brassière à 25 euros, alors que celles qui arrivent de Chine ou du Maghreb sont autour de 9-10 euros, ça ne va pas passer. Donc je vais faire faillite comme l'ensemble de mes copains. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un retour, une acceptation en tout cas, de payer plus cher un produit qui va être Made in France. Donc par exemple, chez Aubert, aujourd'hui, un tiers des gens vont préférer la brassière à 25 euros Made in France. Ce sont des gens qui certainement ont soit un pouvoir d'achat plus fort que d'autres, ou alors vraiment, ils se disent ben, « je ne vais pas en acheter 3 à 10, je vais en acheter une à 25 ». Et c'est un peu, je pense, une évolution de la société qui est en train de se passer. On a fait un projet aussi pour Système U. Ils avaient vraiment un objectif de prix très bas. Donc on a vraiment dû travailler avec eux. Et on est parti sur des pulls, vous voyez, qui sont entièrement tricotés par la machine, donc en trois dimensions. Donc ici, on n'a pas de couture. Ces machines en trois dimensions, c'est vraiment les dernières innovations auxquelles la France, on n'a pas eu accès. Parce qu'en gros, les marchés étaient partis en Asie. Donc ceux qui ont pu investir massivement, c'est ceux qui avaient les commandes. Et là, c'est un pur bonheur d'avoir, nous aussi, les métiers dernier cri et qui permettent de tricoter quand même assez rapidement et surtout sans trop de main d'œuvre en aval, parce que c'est un peu ça qui coûte cher en France, alors que la machine, elle coûte exactement le même prix à nous qu'aux personnes qui sont en Asie.
Donc ce pull que vous vendez dans les Système U, il est vendu combien?
Alors je pense que chez Système U, il doit être à 50 €, il me semble.
Et je vous ai pas demandé, Karine, vous avez combien de salariés du coup?
Alors, on était 12 quand on a commencé notre aventure avec Arnaud de Bellabre. On est 70 aujourd'hui et c'est pas prêt de s'arrêter.
Karine Renouille-Tiberghien et Thomas Hurier sont les fers de lance de ce renouveau du Made in France. Mais il y en a d'autres. Dans le Nord et dans la région de Lyon notamment, les projets se multiplient. C'est difficile à chiffrer, mais est-ce que c'est un mouvement d'ampleur? J'ai posé la question à Thomas Gjebin, qui est économiste au CEPI, le centre de recherche et d'expertise sur l'économie mondiale.
Alors on sent un frétillement, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui souhaitent développer ce Made in France. Alors c'est très positif au niveau local de créer ces usines de textiles, parce que même si c'est des usines où qui sont très automatisées, vous créez quand même des emplois sur place. Vous allez aussi avoir des sous-traitants qui vont pouvoir se mettre en place au niveau local, et puis ça va faire travailler les services. Les gens qui vont être embauchés pourront aller consommer dans les magasins autour, pourront aller éventuellement restaurants autour, donc vous redynamisez ces zones. Maintenant, d'un point de vue économique, non, ce ne sera pas suffisant. Je ne pense pas qu'il y aura... La France ne va pas se réindustrialiser à travers le textile. C'est-à-dire que si on met à part le luxe, c'est des emplois relativement moins qualifiés. Et c'est des produits. Les produits textiles sont des produits à plus faible valeur ajoutée. Donc l'enjeu pour un pays industriel, c'est de développer des secteurs à haute valeur ajoutée et qui soient...
L'aéronautique, par exemple.
L'aéronautique, on parle la voiture électrique. Voilà, c'est ces produits qui vont nous permettre des filières d'excellence pour demain à haute valeur ajoutée, et ce qui permettra aussi, ce qui est un enjeu sociétal majeur, ça permet aussi d'offrir des salaires plus élevés à la classe moyenne.
Comment est-ce qu'on pourrait faire si on souhaitait développer ce type d'initiative, ces créations ou ces relocalisations d'usines? Quels sont, selon vous, les leviers possibles?
Il y a le rôle du Made in France, c'est-à-dire que vous pouvez essayer de pénaliser les importations, c'est-à-dire que si vous dites, par exemple, si des importations qui viennent de pays où plus avec des processus productifs qui sont plus polluants, vous pouvez essayer de les taxer. Mais ça, in fine, ce que ça va conduire, c'est une augmentation des prix pour les consommateurs. Mais l'argument à l'inverse, c'est que si vous créez grâce à ça des emplois sur le sol domestique, c'est à pondérer avec vous allez peut-être payer votre jean un peu plus cher, mais vous allez aussi peut-être avoir vous-même ou vos proches un travail mieux rémunéré. C'est-à-dire
donc votre pouvoir d'achat va augmenter.
In fine, votre pouvoir d'achat va augmenter aussi, tout à fait. Donc le bilan sera positif.
La renaissance pour les vêtements Made in France, c'était le reportage d'Anna Elverzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et si on s'intéresse ce matin à ce secteur de l'habillement, il y a une autre tendance qui, elle, est au-delà du frémissement. C'est l'explosion du marché de la fripe incite à bouleverser le secteur textile. Vinted, son PDG et notre invité ce matin, Thomas Plantinga, bonjour. Good morning.
Good morning.
And pleasure welcome. Vinted, une application lituanienne née en 2008, championne en Europe de la vente de vêtements de seconde main entre particuliers. Alors il faut quand même qu'on se rende compte, 45 millions d'utilisateurs. Est-ce que ça veut dire que chez vous, on consomme plus de vêtements que par exemple chez H&M, Zara ou encore les supermarchés?
En
fait, j'ignore les volumes de vente de ces sociétés, mais nous devenons un acteur très significatif de l'industrie de la mode. Et on en est très content, parce qu'on trouve que le secteur en a bien besoin, en termes de durabilité. On constate que ça devient la norme, en fait, dans des pays comme la France, la Belgique. Le vêtement de deuxième main devient un premier choix.
Vous êtes en Allemagne, vous êtes en Italie, en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni et même aux États-Unis. Ça veut dire que c'est possible de créer un champion européen de la tech.
Oui, et personnellement comme pour d'autres, c'est très important pour nous. On se voit complètement comme une société européenne, et moi je me sens européen. C'est essentiel pour nos industries de pouvoir créer des entreprises performantes qui couvrent tout le continent. Nos compétiteurs, ils sont américains, ils sont chinois. Et si votre marché, c'est seulement la France, l'Espagne, les Pays-Bas, votre marché, il est minuscule, et vous finissez par être écrasé par la concurrence des mastodontes. C'est essentiel pour notre société de construire des entreprises saines, européennes qui peuvent contribuer aux impôts. Et notre société, elle a besoin de ce genre d'entreprise.
Et c'est facile de le faire ?
Là, je suis très satisfait de l'écoute actuelle de nos gouvernements. Ils veulent aider, ils veulent améliorer les choses. Et ils écoutent et comprennent comment structurer notre système fiscal, etc. Le système est-il parfait ? Non. Est-ce que c'est facile ? Non plus. Mais c'est possible, moi je suis très optimiste. On peut encore ouvrir de nombreuses entreprises européennes d'ampleur qui peuvent concurrencer les Américains et les Chinois.
Et pour Vinted, la France est votre premier marché ? Est-ce qu'il y a une explication ?
C'est notre premier marché, mais on s'est récemment beaucoup déployé. Nous avons 45 millions d'utilisateurs, dont 17 millions sont en France. Mais les autres marchés se développent aussi. L'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, et chaque année ça progresse. On voit que pendant les 18 mois derniers, le marché a été extrêmement volatile. Quand le Covid s'est déclaré, tout le monde a été très prudent. Et nous, pendant un mois, on s'est complètement arrêté. On a arrêté les expéditions, les gens ne pouvaient que réserver leurs vêtements. Un mois de fermeture totale, et puis on a repris. Aujourd'hui, ça marche bien. Et donc, on a maintenant repris notre rythme de croissance.
Et est-ce que vous voyez venir ce moment où quand on ira acheter un vêtement, on achètera d'abord de la fripe, de la seconde main, où ce marché dépassera celui des vêtements neufs ?
Oui, et puis j'y crois vraiment. Je constate que la progression se fait comme on l'espérait. Et je vois que tous les préjugés contre la fripe ont disparu. Et même, ils se sont inversés. La seconde main, c'était pour les pauvres, et maintenant, c'est pour les malins, c'est pour ceux qui sont cool. Et comme nous nous basons sur une technologie tellement accessible, l'achat de vêtements de seconde main devient aussi aisé que l'achat de vêtements neufs. Et voilà pourquoi je pense que cela va devenir la norme. Peut-être qu'en France, nous y serons dans 5 ans.
Est-ce que c'est une question de génération ?
Au début, oui. Au début, ce sont les jeunes qui accrochent. Mais ça ne veut pas dire que la génération d'avant se rend compte que c'est un geste utile et intelligent et se met à imiter les jeunes. Non. Avec la technologie, vous voyez les téléphones portables, au début c'était les jeunes. Et aujourd'hui, tout le monde en a un, même votre grand-mère. Et elle l'utilise comme si elle en avait toujours eu un. Toutes les tranches d'âge aujourd'hui sont concernés. Les jeunes filles d'abord, leurs mères ensuite, et puis les hommes maintenant arrivent, tout le monde. C'est pas vraiment une application pour la génération Z ou les millennials. C'est une application pour toute la communauté. Tout le monde peut y contribuer.
Avant, on donnait aux organisations de charité ces vêtements-là. Et maintenant, justement, vous dites que de plus en plus de gens, même les plus âgés, les vendent. Les organisations de charité, chez, en France, c'est par exemple Emmaüs, disent qu'elles reçoivent beaucoup moins de vêtements de qualité. Or, ce sont eux qui rapportent de l'argent. Est-ce que ce point-là, vous y réfléchissez ?
Oui, naturellement. Et si jamais on était en train de torpiller les associations d'entraide, moi, j'en serais malade. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Nous discutons avec les associations et on développe même des partenariats pour que ces associations soient partie prenante de Vinted. Et récemment, de nombreuses associations nous ont rejoints. En plus, ce n'est pas tellement que les associations n'ont plus de vêtements de seconde main. Et même pendant le Covid, on peut dire qu'il y a eu une surabondance d'arrivées parce que beaucoup de gens faisaient des dons. Ils ont même eu un certain volume qui n'a pas tellement évolué. Nous, ce marché, on l'a complètement commencer. Et nos concurrents, c'est pas qu'on arrive pour les anéantir, c'est un marché tellement nouveau qui a sa croissance propre. Tant de vêtements qui attendaient dans les placards ou qui étaient jetés. Et aujourd'hui, ils sont vendus sur Vinted. C'est pas un jeu à somme nulle où un acteur avale les autres. Non, on crée un nouveau marché, on aide les associations, on les aide à vendre sur Vinted.
Les organisations caritatives n'ont jamais fait beaucoup d'argent, en tout cas en récupérant ces vieux vêtements et en les revendant un peu. Vous, Vinted, comment est-ce que vous vous rémunérez ? C'est par des, vous vendez des options aux clients, vous placez de la publicité. Est-ce qu'il y a des marchés sur lesquels ça devient rentable ?
Globalement, la société ne fait pas de bénéfices. Tout l'argent est réinvesti pour notre développement. On lève des fonds auprès d'investisseurs pour accélérer ce développement. Ce que l'on constate cependant, c'est que à chaque transaction, on gagne un petit peu. Mais avec les salaires et avec le marketing, ben là, on gagne encore rien internationalement. Mais selon les territoires et par transaction, moi j'ai confiance. En fait, je sais que c'est un modèle économique et écologique complètement viable.
Vous avez de plus en plus de concurrence, hein, cependant. Il y a d'autres applications et il y a même, ces nouveaux, des marques qui récupèrent leurs vêtements de seconde main pour les vendre elles-mêmes. Est-ce que ça vous inquiète ?
Mais non, je suis ravi que cette industrie qui refusait tout effort vers la seconde main aujourd'hui nous rallie et essaie de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'ils voient qu'il y a une demande. Et moi, je suis fier. Hein, on a fait le premier pas et l'industrie voit que c'est un mouvement à long terme.
Il y a jusqu'à 400 000 produits qui sont mis en vente chaque jour sur Vinted et certains observateurs expliquent que pour cela, en fait, il faut que la fast fashion alimente le marché de la seconde main et que ça n'est pas vraiment de l'économie circulaire, c'est de l'hyperconsommation. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, si vous regardez nos chiffres et vous les avez vus, ça semble énorme. Mais si vous mettez ça en perspective, dans la consommation nouvelle, on est complètement minuscule. On représente moins que 2% des ventes de vêtements neufs. Et c'est déjà bien quelque part. Parce que pour l'environnement, c'est autant de clients qui se détournent du neuf. Donc, on constate qu'on contribue positivement. En termes de consommation, on est encore petit. Et nous pensons qu'on se dirige vers un marché plus circulaire et qui sera plus écologique. C'est finalement logique. Réutiliser, c'est protéger la nature. Et c'est mieux. Alors, je comprends ce que disent les gens. C'est très logique. Vinted grandit, est-ce que c'est positif ? Et c'est important de poser des questions. Et moi, je veux y réfléchir. Mais je vois les choses qui avancent et je suis heureux que nous contribuons au nouveau système.
On voit cependant des utilisateurs, des jeunes gens qui achètent, qui vendent, qui renvoient les paquets. Bref, et tout ça parfois pour des chaussettes à 2 euros. Est-ce que l'empreinte carbone de votre business, vous travaillez dessus ?
Absolument, c'est essentiel.
Est-ce que c'est un problème ?
Non, parce que nous sommes la solution. Et on va d'ailleurs publier un rapport à la fin de l'année. On va montrer l'impact que ça a, l'impact de la revente de vêtements. On connaît l'impact négatif qu'a le transport. Et si on compare le fait de produire des vêtements en Chine, les transporter, les importer, les mettre dans un magasin, et si vous comparez avec deux individus qui s'envoient un vêtement déjà utilisé, l'empreinte carbone, elle est incroyablement plus faible. Aujourd'hui, on sait que le transport, c'est le gros problème. Et nous discutons avec des compagnies de transport en France et en Europe pour réduire vraiment l'empreinte carbone. Il faut absolument aller dans cette direction. Les gouvernements, la société civile n'accepteront pas autre chose. Et donc, nous devons donc être prêts pour l'avenir. Et avec nos partenaires, nous nous assurons d'être sur le bon chemin. Ça concerne les emballages écologiques, le transport écologique, et je crois que c'est essentiel. Et si vous êtes un PDG qui pense un peu plus loin qu'un an ou deux ans en avance, vous êtes obligé d'y réfléchir, sinon vous ne construisez pas un modèle économique progressiste.
Le PDG de Vinted, Thomas Plantinga, merci d'avoir été l'invité d'On n'arrête pas l'écho.
Merci beaucoup.
Sandrine Foulon, le projet de grande sécu qui prendrait en charge tous les remboursements de soins suscite beaucoup d'interrogations. Les salariés cotiseront-ils moins pour leurs complémentaires? Ça, c'est la question que vous pose Pierre-Yves.
Oui, les complémentaires rembourseraient juste les dépassements d'honoraires et certains frais d'optique et dentaire, mais rien n'est acté pour le moment. Autant dire que ce projet ne fait pas des heureux chez les assureurs et mutuelles qui perdraient 70% de leur chiffre d'affaires. Mais créer une grande sécu permettrait de réduire considérablement leurs frais de gestion qui pèsent sur les salariés. Pour vous, Pierre-Yves, ce serait beaucoup moins de cotisations pour la complémentaire, mais attention, ce serait compensé par une hausse d'impôts.
Oui, parce qu'il va falloir la financer, cette grande sécu.
Oui, ça coûterait 19 milliards de plus à la sécu, c'est ce que nous révèlent les échos. Ça reste jouable pour les assurés comme vous, Pierre-Yves, qui gagneraient de 30 à 100 euros par an à l'approche des élections. On comprend que le gouvernement ait envie de tenter le coup, surtout après le bras de fer engagé entre le ministre de la Santé et les assurances, très critiqué pendant le confinement. Mais c'est aussi un projet à haut risque. Les complémentaires n'ont pas que des défauts. Elles ont su innover en téléconsultation, en action de prévention, là où la Sécu a perdu du terrain. Et puis, ça voudrait dire sabrer dans des dizaines de milliers d'emplois de ces mutuelles. Ça ferait un sacré gros plan social.
Rien n'est acté pour le moment. Sandrine Foulon, ma vie au boulot.